Vous écoutez On lit pour vous.
Oui, Alia, mais d'abord à sa juste place. Un texte de Mélissa Canciolet, paru le 23 juin 2026 dans la presse. Les promesses de l'intelligence artificielle, IA, peuvent être séduisantes, mais il faut bien comprendre comment elle fonctionne pour lui confier les bons rôles. Si nous nous y prenons de la bonne façon, l'IA pourrait même nous permettre d'être plus humains, écrit Mélissa Canciolet, experte en neurosciences et cyberpsychologie et auteure. Pour savoir comment l'intelligence artificielle, IA, pourrait améliorer notre quotidien, un cas emblématique récent vaut mille promesses. Ford a confirmé récemment avoir appelé plusieurs centaines d'ingénieurs vétérans pour corriger ce que ses systèmes automatisés et ses outils d'IA n'arrivaient pas à régler, des défauts de qualité qui lui ont coûté des centaines de millions, ce qu'il fallait démontrer. Remettre l'IA à sa place. Ses promoteurs nous la vendent comme une intelligence quasi magique et annoncent depuis 2 ou 3 ans une révolution fracassante. Or, c'est un programme statistique. Il calcule la suite la plus probable à partir de masses de données. Brillant pour repérer des régularités, il ne comprend rien et ignore ce qu'il ne sait pas. Parfait aussi pour inventer des réponses fausses. Le cas de Ford est symptomatique. Une part essentielle des compétences humaines est tacite, contextuelle, impossible à coder. L'IA a bien besoin des humains. Elle ne nous remplace pas. Une occasion de lever les obstacles pour plus de liens. L'IA générative, avec ses grands modèles de langage, est précieuse quand elle traduit, reformule et adapte. Elle peut abaisser la barrière de la langue. Elle peut transformer un jargon médical ou juridique en mots plus simples, clairs et faire le pont entre l'expert et le novice. Elle peut adapter un contenu au rythme ou au niveau de chacun pour ceux qui apprennent autrement. Et pour les personnes en situation de handicap, elle a le potentiel de décrire le monde à une personne aveugle, de sous-titrer pour une personne sourde, de redonner une voix à qui la perd. Dans tous ces cas, un même principe, l'IA au service du lien. Mais attention, l'IA fluidifie le canal de la communication, mais elle ne fabrique ni la compréhension ni l'empathie. Celle-ci reste profondément humaine. C'est ici que tout se joue. L'IA peut nous faire gagner du temps, certes, mais ce temps n'a de valeur que s'il est réinvesti dans ce qui nous rend fondamentalement humains, partager, écouter, être présent, nous comprendre. Le temps vraiment gagné est du temps à haute valeur humaine. La meilleure IA n'est donc pas celle qui fait du volume, mais celle qui ajoute de la qualité, de la présence en nous et avec les autres. Nous gardons le choix. Encore faut-il le vouloir. Au Québec, selon un récent sondage publié dans la presse, plus de la moitié de la population fait maintenant usage d'un robot conversationnel. Pourtant, près des 2/3 des répondants, 62%, se disent assez ou beaucoup préoccupés par l'IA. Nous adoptons plus vite que nous ne comprenons. Or, si l'IA devient l'intermédiaire de nos échanges, comprendre comment elle traduit, reformule et filtre avec ses biais devient un enjeu démocratique. Sait-on ce qui se perd lors de la traduction? Il faut donc se familiariser avec l'outil pour pouvoir garder la main sur les décisions importantes et exiger de la transparence des décideurs. Voilà notre véritable pouvoir. Et contrairement à ce qui est intuitif, nous nous devons de partager ce que nous faisons avec l'IA plutôt que de vivre l'expérience en solitaire, vulnérable aux erreurs, aux biais, en manquant les bonnes pratiques, mais aussi le plus important, le lien. La meilleure façon dont l'IA pourrait nous aider, au fond, n'est pas de penser à notre place. C'est de nous décharger pour nous ramener vers les autres, plus lucides et surtout plus présents. C'était « Oui à l'IA, mais d'abord à sa juste place ». Un texte de Mélissa Canciolet, paru le 23 juin 2026 dans la presse.
à l'ONU, la lutte contre le sida ne fait plus consensus. Un texte de la rédaction, paru le 24 juin 2026 sur le site de l'ONU. Le texte devait relancer la lutte mondiale contre le VIH-SIDA. Il a surtout exposé les fractures géopolitiques qui traversent aujourd'hui l'ONU. Récemment, les États-Unis, la Russie, Israël et 5 autres pays ont voté contre une nouvelle déclaration politique sur le virus pour des raisons davantage liées au genre, aux droits humains et à la propriété intellectuelle qu'à la santé publique. Pendant un quart de siècle, le VIH-SIDA a constitué l'un des rares sujets capables de transcender les lignes de fracture diplomatique. Face à un virus qui a fait des dizaines de millions de morts dans le monde, la coopération internationale semblait relever de l'évidence. Cette exception s'est fissurée. Réunie à New York, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par 149 voix une nouvelle déclaration politique destinée à replacer l'élimination du sida au cœur des politiques de santé publique d'ici à 2030. Mais 8 pays ont voté contre. Les États-Unis, la Russie, Israël, le Burkina Faso, le Burundi, la Corée du Nord, le Niger et le Sénégal, tandis que 14 autres se sont abstenus, parmi lesquels 9 États du Moyen-Orient. De toute évidence, les grandes batailles idéologiques qui marquent depuis plusieurs années les débats au sein des Nations unies gagnent désormais le terrain des politiques de santé mondiale. Le virus au second plan. Fait révélateur, presque aucun État n'a contesté les objectifs sanitaires de la déclaration. Tous s'accordent sur la nécessité d'améliorer la prévention, les traitements ou le dépistage. Les désaccords se sont exprimés ailleurs, au niveau des droits humains, du genre, de la propriété intellectuelle, des sanctions économiques ou encore des populations les plus exposées au VIH. Premier bailleur mondial de la lutte contre le sida, à laquelle le pays affirme avoir consacré plus de 100 milliards de dollars dans plus de 50 pays, les États-Unis ont commencé par rappeler leur rôle historique. Nos efforts ont permis de sauver environ 26 millions de vies, d'offrir un traitement antirétroviral à plus de 20 millions de personnes et d'empêcher que plus de 5 millions d'enfants naissent avec le VIH, a souligné la représentante américaine Tammy Bruce. Puis, le ton a changé. Nous regrettons qu'un consensus n'ait pas été atteint aujourd'hui en raison des insuffisances du texte lui-même, qui aurait dû rester résolument concentré sur l'objectif urgent de mettre fin au VIH-SIDA comme menace pour la santé publique d'ici à 2030. Selon Washington, la déclaration s'écarte de cette mission essentielle en incluant des sujets clivants, en réaffirmant des documents qui ne font pas consensus ou qui n'ont aucun lien avec la lutte contre le sida. L'administration américaine vise notamment les dispositions relatives aux droits sexuels et reproductifs, au genre, mais aussi plusieurs passages consacrés au commerce international. Le texte appelle en effet à renforcer le transfert de technologies afin de permettre aux pays en développement de produire davantage de médicaments contre le VIH et encourage un accès plus équitable aux innovations thérapeutiques. Au cours des dernières heures de négociation, un amendement présenté par le Malawi au nom du groupe africain a supprimé la mention selon laquelle ces transferts devaient intervenir selon des modalités mutuellement convenues une formule défendue par les pays occidentaux. Nous avons clairement rappelé notre position de longue date sur la protection de la propriété intellectuelle et sur la nécessité que les transferts de technologies reposent sur une base volontaire et sur des conditions mutuellement convenues, a justifié Tammy Bruce. Nous ne pouvons accepter des références dépourvues de ces garanties. Washington s'est également opposé au passage, critiquant les sanctions économiques unilatérales que les États-Unis considèrent comme des instruments légitimes de politique étrangère. Moscou dénonce des notions scientifiquement douteuses. La Russie est arrivée à la même conclusion, mais par un chemin différent. Son représentant a assuré que Moscou avait participé de manière constructive aux négociations avant d'affirmer que le texte conservait une multitude de dispositions qui constituent des lignes rouges. Parmi elles, figureraient une vingtaine de dispositions inacceptables liées à une intervention dans les affaires intérieures des États membres dans la lutte contre le VIH, imposant au pays des notions scientifiquement douteuses, ainsi que la promotion d'un langage non consensuel sur le genre. Et le représentant russe de conclure, « Ce document ne nous unit pas, il nous divise, il ne nous pousse pas à avancer, il nous contraint à nous arrêter pour nous enliser dans des discussions qui nuisent à la lutte globale contre le VIH-SIDA. » Derrière cette formule se retrouve la ligne que Moscou défend désormais dans la plupart des négociations onusiennes portant sur les droits humains, dont le rejet des références au genre, l'opposition aux politiques destinées aux personnes LGBT+, et le refus des approches de réduction des risques pour les consommateurs de drogues injectables. Pourtant, ces populations figurent parmi les plus exposées au virus du sida. La déclaration rappelle qu'elles représentent près de la moitié des nouvelles infections chez les adultes dans le monde et jusqu'à 85 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Une déclaration qui dit autant sur le monde que sur le VIH. Les votes contre ne recouvrent cependant pas tous les mêmes motivations. Israël est opposé au texte, en dénonçant notamment les références à la déclaration de Durban ainsi que les dispositions relatives au transfert de technologies. Plusieurs pays conservateurs ont, eux, contesté les références au genre ou aux populations clés. À l'inverse, l'Union européenne s'est battue jusqu'au bout pour maintenir ses expressions, estimant qu'il était impossible de construire une politique efficace de lutte contre le VIH sans reconnaître les groupes les plus exposés à l'épidémie. Cette bataille diplomatique intervient au moment où les experts s'inquiètent d'un ralentissement inédit de la réponse mondiale. La déclaration reconnaît que les objectifs fixés pour 2025 n'ont pas été atteints et que le monde n'est plus sur la trajectoire permettant de mettre fin au sida d'ici à 2030. Elle souligne également que le financement mondial accuse déjà un déficit de 3,2 milliards de dollars et pourrait encore se contracter sous l'effet des récentes réductions de l'aide internationale. Le paradoxe est saisissant. Au moment même où l'ONU-SIDA appelle à accélérer les efforts face à une épidémie qui continue de provoquer 1,2 million de nouvelles infections et 570 000 décès chaque année, la discussion internationale s'est déplacée vers un tout autre terrain. Les débats ont moins porté sur les traitements, les vaccins ou les stratégies de prévention que sur les droits, les identités, la souveraineté et les rapports de force économiques. Le texte a finalement été adopté sans difficulté, mais le vote laisse une impression durable. Même face à un virus mondial, le consensus n'est plus le point de départ du multilatéralisme. C'était, à l'ONU, la lutte contre le sida ne fait plus consensus, un texte de la rédaction, paru le 24 juin 2026 sur le site de l'ONU.
Bientôt trop de satellites pour voir les étoiles. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 juillet 2026 dans la presse. Observer les étoiles sera bientôt impossible pour les astronomes. Alors que le ciel compte déjà un peu plus de 15 000 satellites, une nouvelle étude européenne évalue à 100 000 le seuil à ne pas franchir pour éviter de nuire à l'étude des astres. Et pourtant, plus de 1,7 million sont prévus. Internet et centres de données. La catastrophe des méga-constellations de satellites est documentée depuis plusieurs années par les astronomes, explique Olivier Hernandez, directeur du Planétarium de Montréal. Mais c'est la première fois qu'un calcul montre la limite à partir de laquelle l'astronomie sera en péril. Un enfant qui naît maintenant dans une grande ville a 18 ans. Il ne verra plus aucune étoile parce que la pollution lumineuse augmente sans cesse, dit M. Hernandez. Les satellites jouent un rôle de plus en plus grand dans ce phénomène et c'est le bon moment pour dire qu'il y a un problème fondamental. À partir de cette limite de 100 000 satellites en orbite, contre plus de 15 000 actuellement, le reflet de la lumière du Soleil sur les satellites va devenir le problème principal de l'astronomie, selon l'étude publiée mercredi par l'Observatoire européen austral, ISO, sur un site de prépublication. Actuellement, les satellites ne sont que l'un des problèmes, avec les bris mécaniques, les nuages, illustre Nathalie Ouellet, directrice adjointe de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes et de l'Observatoire du Mont Mégantic. Jusqu'en 2010, il y avait moins de 1000 satellites en orbite terrestre. La situation a changé avec le service Internet satellite Starlink de SpaceX, qui compte actuellement plus de 10 000 satellites. D'autres méga-constellations de télécommunications sont anticipées. L'établissement prévu de centres de données en orbite, qui auraient moins besoin de refroidissement et bénéficieraient d'énergie solaire abondante, explique pourquoi l'étude de l'ISO arrive à une estimation de 1,7 million de satellites dans les prochaines décennies. Photographie. Pour le moment, les astronomes amateurs ne souffrent pas beaucoup de l'augmentation du nombre de satellites, sauf ceux qui font de l'astrophotographie. C'est un problème de plus en plus fréquent, observe Jasmin Robert, directeur général de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, FAAQ. Il y a des solutions techniques pour y remédier, par exemple le traitement d'images, mais ça va devenir un enjeu rapidement pour l'astrophotographie. Georges Simard, du club d'astronomie Bois de Belle-Rivière-Mirabel, participe à deux projets visant à minimiser le problème des satellites. L'un est organisé par le fabricant de télescopes Unistellar et vise à accumuler des données sur la luminosité des satellites pour aider leurs fabricants à minimiser la pollution visuelle. M. Simard a fourni des données sur 46 satellites depuis 2024. L'autre projet, SkySphere, vise à surveiller le ciel en permanence pour détecter, grâce à l'IA, les phénomènes aériens comme les satellites, les étoiles filantes et les avions. J'ai un des 5 prototypes de l'appareil de SkySphere à mon chalet. C'est le seul au Canada, dit M. Simard. Miroir et cancer. Pour compliquer le tout, des dizaines de milliers de satellites miroirs qui permettrait d'illuminer la nuit, sont aussi prévus, notamment par la firme américaine Reflect Orbital. Chacun de ces satellites serait aussi lumineux que la pleine lune dans la région qu'il viserait, mais cette pollution lumineuse serait aussi présente ailleurs. Les observations astronomiques vont être complètement impossibles, estime M. Hernandez. Il ajoute que des études ont avancé que le degré de pollution lumineuse qui serait créé par un projet comme celui de Reflect Orbital augmenterait le risque de cancer lié aux hormones à cause du dérèglement du cycle éveil-sommeil. La FAAQ a dénoncé publiquement le projet de Reflect Orbital. Désorbitage. Depuis 2007, le Comité des utilisations pacifiques de l'espace de l'ONU recommande que le désorbitage des satellites en orbite basse soit planifié après au plus 25 ans d'inactivité. Le respect de cette règle aura un effet important sur les aspects négatifs des constellations de satellites pour l'astronomie. C'est sûr que les satellites inactifs restent en orbite. Ils vont augmenter le problème de pollution lumineuse, explique Mme Ouellet. Mais si des centaines de milliers de satellites se désintègrent dans l'atmosphère, tout ce métal va rester dans l'atmosphère. On ne sait pas ce que ça va faire à la couche d'ozone, par exemple. Jusqu'à maintenant, SpaceX a plutôt bien respecté l'ordonnance de l'ONU, selon une base de données sur les satellites gérée par un astrophysicien de l'Université Harvard, Jonathan McDowell. Seulement 14 satellites Starlink étaient inactifs et toujours en orbite en date du 15 juin 2026. Des projets visant à déployer d'autres constellations de satellites de communication à une altitude plus élevée, 1000 km, parce que les orbites plus basses deviendront éventuellement trop congestionnées, inquiétaient en 2021 le Comité Interagence de coordination des débris spatiaux, IADC, mis sur pied par les principales agences spatiales du monde. Un satellite inactif à une telle altitude pourrait rester en orbite quasi éternellement, notait l'IADC dans son rapport de 2021. À des altitudes plus basses, l'atmosphère terrestre est encore assez dense pour ralentir les satellites. SpaceX utilise par exemple les panneaux solaires de ses satellites Starlink pour accentuer la résistance de l'air. Les satellites de Starlink sont à environ 500 km d'altitude, alors que l'orbite basse va jusqu'à 2000 km. En savoir plus. Source Université Harvard. 88% proportion des satellites qui sont en orbite basse. 3000 nombre de satellites inactifs en orbite. C'était Bientôt trop de satellites pour voir les étoiles, un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 juillet 2026 dans La Presse.
Bâtir un troisième lien, le gouvernement invite les intéressés à lever la main. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 26 juin 2026 dans Le Devoir. Le gouvernement de Christine Fréchette a lancé en juin 2026 un appel d'intérêt international pour recueillir les perspectives du marché sur les conditions de réalisation en mode partenariat du troisième lien entre Québec et Lévis. Cette nouvelle étape dans une saga démarrée avant même l'accession de la coalition Avenir Québec, CAQ, au pouvoir doit durer 45 jours. L'appel d'intérêt, indique le ministère des Transports dans un communiqué, vise à alimenter les réflexions à propos de la mise en œuvre du troisième lien. Les constats tirés de cette consultation internationale devraient être connus à l'automne 2026, assure le gouvernement, au terme d'une période d'entrevue avec les entreprises intéressées. Dès où nous pourrons dire combien ont levé la main, précise le cabinet du ministre des Transports, Benoît Charrette. Les conclusions devront cependant attendre à novembre, puisque le gouvernement se réserve du temps pour discuter avec les entreprises et analyser les stratégies proposées par ces dernières. L'estimation de la facture et le tracé détaillé demeureront donc des variables inconnues au moment où la population se rendra aux urnes le 5 octobre 2026. la première ministre privilégie l'implantation d'un lien dans le corridor numéro 5 entre la route Lallemand à Lévis et l'autoroute Dufresne-Montmorency à Québec. Pendant sa course à la succession de François Legault, Christine Fréchette avait précisé que la collaboration du privé lui apparaissait nécessaire à la réalisation du troisième lien en des temps de finances publiques sous pression. Un péage doit d'ailleurs voir le jour sur l'infrastructure à venir. Il s'agit du deuxième appel d'intérêt international lancé sous le gouvernement de la CAQ par rapport au troisième lien. Le premier exercice du genre avait vu 23 entreprises lever la main. Depuis, toutefois, la première ministre a abandonné le tracé central privilégié pendant le passage de Jonathan Julien au transport au profit d'un lien plus à l'est. Le gouvernement avance qu'un troisième lien assurerait la sécurité et le développement économique de la capitale nationale, de Chaudière-Appalaches et de l'est du Québec et viendrait améliorer la mobilité de la population et des marchandises sur le réseau routier. Dans son rapport sur la mobilité dans la grande région de Québec, déposé en juin 2024, CDPQ Infra se montre toutefois critique du corridor que favorise aujourd'hui le gouvernement. Elle estimait que le tronçon, haut d'au moins 74 mètres pour permettre le passage des plus grands navires de croisière sur le fleuve, attirerait seulement 1600 véhicules par heure en direction de Québec à l'heure de pointe matinale. Il y aurait généralement peu d'améliorations sur le réseau routier et sur l'axe des ponts existants, a écrit CDPQ Infra. Les analyses réalisées par cette dernière calculaient un gain de temps limité à 5 minutes en moyenne, prévoyaient des contraintes importantes pour la construction de fondations d'un pont dans les profondeurs du fleuve et estimaient que la présence d'un troisième lien dans le corridor 5 entraînerait une saturation très importante du quartier Saint-Roch. C'était « Bâtir un troisième lien », le gouvernement invite les intéressés à lever la main. Un texte de Sébastien Tanguy paru le 26 juin 2026 dans Le Devoir.